Alexandre Duval-Stalla, vous restez avec nous dans un instant pour continuer de parler de Malraux durant sa période gaulliste. Nous serons avec Michel Crépu pour parler des jeunes en 68 et du dialogue qu'ils ont eu à cette époque-là avec André Malraux. Mais avant cela, c'est le moment de retrouver la chronique d'Olivier Mauny. Bonjour Olivier.
Bonjour Mathieu.
Et vous ne vous éloignez pas trop de Malraux puisque vous nous parlez de Louise de Villemorin.
En effet, Mathieu, Louise de Villemorin, dont Malraux fut à la fois un grand amour de jeunesse, le compagnon de ses dernières années dans sa belle propriété familiale de Verrières-le-Buisson, et un mentor de chaque instant, à qui la belle Louise doit sans doute finalement sa carrière littéraire. Ceci dit, le moment me paraissait bien choisi, comme vous l'avez dit, pour réévaluer l'œuvre de la bonne hôtesse, comme elle aimait à ce que ses amis l'appellent, et redire l'enchantement de cette femme, douée pour le mystère et la fantaisie, chasseuse de chimères, dont, sinon la vie, au moins la présence au monde, fut peut-être tout de même le chef-d'œuvre.
Alors, est-ce que vous pouvez nous rappeler, Olivier, un petit peu davantage, qui était Louise de Villemorin ?
Eh bien, disons, une femme d'abord trop libre, Mathieu, pour se laisser justement renfermer dans une quelconque définition. Mais, disons tout de même, une femme d'esprit et de goût, jusque dans le refus de revendiquer l'un ou l'autre. Une femme qui aimait les hommes aussi, ne comptait-elle pas parmi ses soupirants, outre Malraux, qui fut, on l'a vu, celui qui demeura, dans le temps comme à Verrières, finalement, Saint-Exupéry, à qui très jeune on la fiança, c'est pour lui qu'elle écrivit son fameux « Je t'enlacerai, tu t'enlaceras », sans parvenir, dit-on, à le convaincre qu'il s'enlacerait. Roger Nimier, Orson Welles, Gaston Gallimard, Pierre Segers ou même Léo Ferré, mais aussi, quoique de manière plus platonique bien sûr, Cocteau, Visconti, Christian Bérard, Jean Hugo ou Cécile Beaton.
Ça fait un large spectre politique ça, parmi tous ces amants.
Politique certainement, mais esthétique encore plus. Ceci sans évoquer, parmi d'autres manifestations de sa liberté souveraine, son premier mari, l'américain Henry Lee Hunt, qui enleva cet aristocrate de l'Essonne pour l'installer à Las Vegas, qu'elle quitte 3 enfants et quelques années plus tard, considérant que la plaisanterie américaine a assez duré. On pourrait aussi évoquer Duff Cooper, alors ambassadeur de Grande-Bretagne en France, et sa femme Lady Diana, avec qui, après guerre, Louise formera un charmant ménage à trois. Toutefois, si elle en aima beaucoup, Louise de Villemorin n'admirera jamais autant un homme comme elle admira Malraux. Faute d'être parvenue à l'épouser, Malraux n'était pas divorcé, elle l'installe en son domaine de Verrières-le-Buisson et découvrit sur le tard les servitudes de la vie conjugale, se plaignant dans sa correspondance, je cite, « Je ne suis plus Louise de Villemorin, je suis Marilyn Malraux ».
Donc une carrière amoureuse très impressionnante. Est-ce que cela justifie que l'on fasse, comme vous le faites d'ailleurs, l'impasse sur son œuvre ?
Non, bien sûr.
Vous qui aimez d'habitude parler littérature.
Je vais essayer de me rattraper, ce d'autant plus que bien entendu, la vie participe de l'œuvre et vice-versa. Écrire, c'est vivre. Et il est probable que même si hostile à la vulgarité de toute déclaration d'intention, elle n'en fit jamais vraiment état, l'écriture était à Louise une assaise et une grâce, et certainement pas un divertissement. Il faut donc lire ou relire, effectivement, à notre tour, ses poèmes, sa correspondance qui est très belle et qui a publié de façon extrêmement pertinente Patrick Moriès dans sa regrettée collection Le Promeneur, ses romans et revoir les scénarios qu'elle offrit au cinéma, en particulier Les Amants de Louis Malle ou Une histoire immortelle adaptée de Karen Blixen pour Wells. Quelques titres en vrac, en commençant par son chef-d'œuvre Madame II. Immense succès de librairie que son ami Max Ophuls adaptera à l'écran avec Daniel Dario et Vittorio De Sica. Il y a aussi son premier roman, Sainte une fois, que Malraux porte lui-même chez Gallimard et lui vaut les éloges de Gide, de Drieux ou de Pollan. On pourrait également citer Julietta ou le trop méconnu La lettre dans un taxi. À la relire, on s'aperçoit d'ailleurs qu'elle n'a pas tant vieilli, ce qui lui ferait sûrement plaisir, tant ce n'était pas ce qu'elle préférait. Pas plus, par exemple, qu'une Sagan, à qui on ne peut s'empêcher de songer. Au fond, d'ailleurs, les romans de Françoise Sagan sont sans doute une version bourgeoise et trente glorieuse de ceux plus subtilement aristocratiques de Louise de Villemorin. Souvenons-nous, pardon, de cette phrase qui résume Louise tout entière et que Françoise aurait pu aussi écrire « J'accepte tout ce qu'on me donne, sauf mon âge ». Sans compter que les deux partageaient une identique incertitude de soi en tant qu'écrivain, simplement l'une était peut-être plus douée pour le bonheur que l'autre, ou savait mieux le faire croire. Bref, Mathieu, Louise de Villemorin fait depuis 47 ans une très passable morte, tant il suffit de la lire encore pour que ses tours et ses détours nous la rendent vivante.
Sur la vie amoureuse de Malraux, qui n'était pas exactement la même que celle du général Alexandre Duval-Stalla, est-ce que vous savez si il portait un jugement négatif? Enfin, est-ce qu'il le trouvait trop dissolu? Est-ce que ça n'était pas entre eux une différence de style rédhibitoire?
C'était surtout un problème pour Madame de Gaulle, qui voyait en Malraux le diable. Et il, d'une certaine manière, elle obtint le mariage de Malraux en 48 avec Madeleine.
Ouais. C'est dire quand même à quel point Malraux prêtait allégeance à De Gaulle, parce que sur ce sujet-là, qu'il se laisse convaincre.
Tout à fait. Ce qu'il faut aussi dire peut-être sur la vie amoureuse d'André Malraux, c'est qu'il était foncièrement monogame en fait. Et donc il a eu Clara Goldschmidt d'abord, avec cette espèce de couple explosif. Ensuite Josette Clotis, qui malheureusement décédera à la fin de la guerre. Puis Madeleine. Ensuite Louise, et puis derrière Louise, sa nièce Sophie.
Olivier Monnier.
Oui, non, j'ai pas rien à rajouter de particulièrement.
Vous êtes un lecteur de Malraux en tous les cas.
Ah oui, je suis un lecteur de Malraux, oui, bien qui ne l'est pas, au moins autour de cette table. Mais ce sont des fidélités successives. D'ailleurs, il en a eu d'autres, et pas uniquement dans le domaine amoureux chez Malraux. Et c'est somme toute assez touchant, et somme toute aussi assez touchant que tante Yvonne ait fini par en rabattre sur ses prétentions, là où je l'ai connu, enfin je l'ai connu, pas moi,
l'avez connu.
Là où on l'a connu, c'est un on de majesté, beaucoup plus attentive, je pense au cas de Jacques Chaban-Delmas par exemple.
Eh bien merci majesté, et nous vous donnons rendez-vous dans 15 jours.